Apulée, le conte d'amour et de Psyché, deuxième partie. La première visite des sœurs. Les deux sœurs, cependant, se sont fait indiquer le rocher et la place même où Psyché a été abandonnée. Elles y courent aussitôt. Les pleurs inondent leurs yeux, elles se frappent la poitrine et l'écho renvoie au loin leurs lamentations. Elles appellent par son nom leur sœur infortunée. Du haut de la montagne, leurs cris déchirants vont retentir jusqu'aux oreilles de Psyché dans le fond de la vallée. Son cœur palpite et se trouble. Elle sort éperdue de son palais. « Pourquoi cette douleur et ces lamentations ? » s'écria-t-elle. « La voilà, celle que vous pleurez. Cessez de gémir, cessez vos pleurs. Il ne tient qu'à vous d'embrasser celle qui les cause. » Alors elle appelle Zéphyr et lui transmet l'ordre de son époux. Aussitôt, serviteur empressé, Zéphyr, d'un souffle presque insensible, enlève les deux sœurs et les transporte auprès de Psyché. On s'embrasse avec transport, mille baisers impatients se donnent et se rendent. Aux larmes de la douleur succèdent les larmes que fait couler la joie. « Allons, dit-elle, entrons dans ma demeure. » Plus de chagrin, il faut se réjouir, puisque votre Psyché est retrouvée. Elle le dit et se plaît à étaler à leurs yeux les splendeurs de son palais d'or, à leur faire entendre ce peuple de voix dont elle est obéie. Un bain somptueux leur est offert, puis un banquet qui passe en délices tout ce dont l'humaine sensualité peut se faire idée. Si bien que, tout en savourant à longs traits l'enivrement de cette hospitalité surnaturelle, les deux sœurs commencent à sentir la jalousie qui germe au fond de leur jeune cœur. L'une d'elles, à la fin, presse Psyché et ne tarit pas de questions sur le possesseur de tant de merveilles. « Mais qui est ton mari? Comment est-il fait ?» Fidèle à l'injonction conjugale, celle-ci se garde bien de manquer au secret promis. Une fiction la tire d'affaire. Son mari est un beau jeune homme dont le menton se voile d'un duvet encore doux au toucher. La chasse est son occupation habituelle. Il est toujours par mont et par vaux. Et pour couper court à une conversation où sa discrétion pourrait à la longue se trahir, elle charge ses deux sœurs d'or et de bijoux, appelle Zéphyr et lui enjoint de les reconduire où il les a prises. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les sœurs envieuses et jalouses. Et voilà ces deux bonnes sœurs qui, tout en se retournant, le cœur rongé déjà du poison de l'envie, se communiquent leurs aigres remarques. L'une enfin éclate en ces termes. Oh, voilà de tes traits, ô cruelle fortune! Injuste, aveugle déesse, née de même père et de même mère, se peut-il que ton caprice nous fasse une condition si différente? Nous, ses aînés, on nous marie à des étrangers, ou plutôt, on nous met à leur service. On nous arrache au foyer, au sol paternel, pour nous envoyer vivre en exil, loin des auteurs de nos jours. Et cette cadette, arrière-fruit d'une fécondité épuisée, nage dans l'opulence. Elle a un dieu pour mari, elle qui ne s'est même pas usée convenablement d'une telle fortune. Vous avez vu, ma sœur, comme les joyaux, et quels joyaux, font partout litière en sa demeure. Des étoffes d'une beauté, des pierres d'un éclat, mais de l'or partout. Et s'il est vrai que son époux soit aussi beau qu'elle s'en vante, existe-t-il une plus heureuse femme au monde? Vous verrez que l'attachement de cet époux dieu, fortifié par l'habitude, ira jusqu'à faire de cette créature une déesse. Et certes, tout l'annonce, ses airs, cette tenue. On aspire au ciel, on ne tient plus à la terre, quand déjà on a des voix pour vous servir, quand les vents vous obéissent. Et quel est mon lot à moi? Un mari plus vieux que mon père, chauffe comme une citrouille, le plus petit des nabots, et qui sache tout. Tu as tout sous la clé. Moi, reprit l'autre, Blesse sur les bras un mari goûteux, perclu et tout courbé, qui n'a garde de faire souvent fête à mes charmes. Je n'ai d'autre soin, pour ainsi dire, que de frictionner ses doigts torts et paralysés. Et mes mains, ces mains délicates que vous voyez, se gercent à force de manipuler des liniments infects, des dégoûtantes compresses et de fétides cataplasmes. Est-ce là le rôle d'épouse ou le métier de garde-malade? Enfin, voyez, ma sœur, jusqu'où il nous convient de pousser la longanimité ou la bassesse, car il faut parler net. Quant à moi, je ne puis tenir à voir un si haut bonheur tomber en de pareilles mains. Vous rappelez-vous sa morgue, son arrogance, et quel orgueil perçait dans cette superbe ostentation de toutes ses richesses, et comme nous en a jeté, comme à regret, quelques bribes, et comme elle s'est débarrassée de nous, comme sur un modèle, on nous a mis au plutôt soufflé dehors. Oh, j'y perdrais mon sexe et la vie, ou je le précipiterais de ce trône de splendeur. Tenez, l'insulte nous est commune. Et si vous le sentez comme moi, prenons ensemble un grand parti. D'abord, nous montrons à nos parents, ni à personne, les jolis cadeaux que nous portons là. Il y a mieux, ne disons mot de ce que nous savons d'elle. C'est bien assez de mortification de l'avoir vue, sans l'aller conter à nos parents et proclamer par toute la terre. Richesse ignorée n'est pas contentement. Faisons-lui voir que nous sommes ses aînés et non ses servantes. En attendant, allons revoir nos maris et nos ménages. S'ils sont pauvres, ils sont simples du moins. Nous méditerons notre vengeance à loisir et nous reviendrons bien en mesure de punir cet orgueil. L'odieux pacte fut bientôt conclu entre ces deux perverses créatures. Elles cachent d'abord leurs richesses présents et, s'arrachant les cheveux, se déchirant le visage, traitement du reste trop mérité, les voilà qui se lamentent sur nouveau frais, mais cette fois par simagrée. Quand elles ont réussi à rouvrir les plaies de leurs parents infortunés, elles les quittent brusquement et regagnent leur demeure. Et là, gonflées de rage au point que la tête leur en tourne, elles ourdissent contre leur sœur innocente un détestable, disons mieux, un parricide complot. Psyché, attend famille, second avertissement. Cependant, le mystérieux époux de Psyché continue ses admonitions nocturnes. « Tu le vois, disait-il, la fortune déjà escarbouche de loin contre toi, et va bientôt, si tu ne la tiens ferme sur tes gardes, engager le combat corps à corps. Deux monstres féminins ont mis en commun pour te perdre leur infernal génie. Leur plan est de t'amener à surprendre le secret de ma figure. Or, je te l'ai dit souvent, tu ne la verras que pour ne plus la revoir. » Si donc ces infâmes mégères revenaient armées de perfides desseins, oh, elles reviendront, je le sais. Point d'entretien avec elles, ou si c'est trop exigé de ce cœur si simple et si bon, du moins sur ce qui me touche, n'écoute rien, ne réponds rien. Nous allons voir s'augmenter notre famille. Enfant toi-même, tu portes un enfant dans ton sein, un enfant qui sera Dieu, si tu respectes mon secret, simple mortel, si tu le profanes. Grande joie de Psyché à cette nouvelle, une progéniture divine, un si glorieux gage de leur union, et ce respectable nom de mère. Dans son impatience, elle compte les jours et récapitule les mois. Elle suit avec surprise l'incompréhensible progrès de ce petit ventre qui s'arrondit, effet prodigieux d'une si légère piqûre. Cependant, les deux abominables furies dont la bouche distille le poison pressaient déjà leur retour avec l'impatience du crime. Nouvelle visite, nouvel avertissement de l'époux. Ma Psyché, voici le jour décisif, d'où toute chose à la crise. Ton propre sexe, ton propre sang est armé contre toi. L'ennemi est en marche, il a pris position, le signal est donné. Déjà, les affreuses sœurs ont le poignard levé sur toi. Ô ma Psyché, quelle calamité nous menace! Aie pitié de toi, aie pitié de nous, et que ta discrétion inviolable conjure la ruine de ta maison, de ton mari, la tienne, celle de notre enfant. Ces femmes qu'une haine homicide et les droits du sang foulés aux pieds ne te permettent plus d'appeler tes sœurs, ces sirènes vont se remontrer sur la montagne et envoyer à l'écho des rochers leur appel perfide. Ne les reçois pas, ne les écoute pas. Psyché répond d'une voix entrecoupée par les sanglots et les larmes. Je vous ai montré, je pense, que je tiens ma parole et que je sais me taire. Laissez-moi vous prouver maintenant que ma persévérance n'est pas moindre que ma discrétion. Ordonnez seulement à notre Zéphyr de me prêter encore son ministère, et ne pouvant jouir de votre divine image, que j'ai du moins la consolation de voir mes sœurs. Je vous en conjure par les boucles flottantes et parfumées de votre chevelure, par ces joues charmantes, non moins délicates que les miennes, par cette poitrine qui brûle de je ne sais quelle mystérieuse chaleur. Un jour, les traits de cet enfant me révéleront ceux de son père, mais qu'aujourd'hui j'obtienne de vous d'embrasser mes sœurs. Accordez cette faveur à mes instances, et comblez d'une douce joie le cœur de cette psyché aussi dévouée qu'elle vous est chère. Désormais, je ne vous parle plus de votre visage. Les ténèbres n'ont plus rien qui m'importune. Vous êtes ma lumière à moi. » Elle dit et, en même temps, lui prodigue les plus douces caresses. Le charme opère. L'époux, de ses propres cheveux, essuie les larmes de sa psyché et s'évanouit encore de ses bras avant que le jour n'ait paru. Deuxième visite des sœurs. À peine débarqué, le couple conspirateur, sans visiter père ni mère, va droit au rocher, en franchit la hauteur d'une traite, et toutes deux, au hasard de ne pas trouver de vent pour les porter, se lancent aveuglément dans l'espace. Mais Zéphyr est là, prêt à exécuter, bien qu'à contre-cœur, les ordres de son maître. Son souffle les reçoit et les dépose mollement sur le sol de la vallée. Aussitôt, elles précipitent leurs pas vers le palais. Elles embrassent déjà leur proie et la saluent effrontément du nom de sœur. Elles l'accablent de cajolerie. Psyché n'est pas une petite fille à cette heure, la voilà bientôt mère. Sais-tu ce que nous promet cette jolie petite redondité? Quelle joie pour notre famille! Oh, que nous allons être heureuses de choyer ce petit trésor! Si, oh, ce que nous ne pouvons pas manquer de voir, sa beauté répond à celle des auteurs de ses jours, ce sera un vrai Cupidon. Enfin, elle joue si bien la tendresse qu'insensiblement le cœur de Psyché se laisse prendre à la séduction. Elle les fait asseoir pour reposer leurs jambes de la fatigue du voyage. Puis la vapeur d'un bain chaud ayant achevé de les remettre, elle leur fait servir sur une table magnifique les mets les plus recherchés et les plus exquis. Psyché veut un air de lyre et les cordes vibrent, un air de flûte et la flûte module, un chœur de voix et les voix de chanter en partie. Aucun musicien n'a paru, et les oreilles sont charmées par la plus suave harmonie. Mais l'âme des deux mégères est à l'épreuve des attendrissements de la musique, et elles n'en songent pas moins à enlacer leurs sœurs dans leurs traîtres filets. Avec une indifférence apparente, elles lui demandent quel air a son mari, quelle est son origine et sa famille. La pauvre psyché avait oublié sa réponse précédente. Elle fit un nouveau compte. Son mari était d'une province voisine et il faisait valoir par le négoce un capital considérable. C'était un homme de moyen âge et dont les cheveux commençaient à grisonner. Là-dessus, coupant court à toute information, elle les comble de nouveau des plus riches présents et leur fait reprendre leur route aérienne. Le projet funeste des sœurs, leur troisième visite. Tandis que la douce haleine de Zéphyr les voiturait vers leur demeure, les deux sœurs s'entretenaient ainsi tout en cheminant par les airs. « Eh bien, ma sœur, cette imprudente nous a-t-elle débité d'assez grossiers mensonges? L'autre jour, c'était un adolescent dont un poil follet ombrageait à peine le menton, maintenant c'est un mari sur le retour, et qui déjà grisonne. Conçoit-on qu'un homme change ainsi à vue d'œil et vieillisse si lestement ? Tenez, ma sœur, il n'y a que deux manières d'expliquer cette contradiction. Ou l'effrontée se joue de nous, ou elle n'a jamais vu son mari en face. Quoi qu'il en soit, il faut l'expulser de cette position splendide. Si elle n'a jamais vu les traits de son époux, c'est qu'elle a pour époux un dieu, et c'est un dieu qu'elle va mettre au jour. Or, avant qu'elle entende, pour ce qu'au dieu le plaise, un enfant divin l'appeler sa mère, j'irai me pendre de mes propres mains. Allons, avant tout, voir nos parents, et pour nous préparer un langage que nous devons tenir à psyché, faisons-leur quelques bons comptes dans le même sens. Là-dessus, leur tête se monte, elles brusquent sans façon leur visite au manoir paternel. S'en retournant au plus vite et encore exaspérées par une nuit de trouble et d'insomnie, dès le matin, elles revoltent au rocher et en descendent, comme à l'ordinaire, sur l'aile du vent. Les hypocrites se frottent les yeux pour y faire venir des larmes, et voici quelles insidieuses paroles elles adressent à Psyché. « Tu t'endors, mon enfant, dans une douce quiétude, heureuse de ton ignorance, et sans te douter du sort affreux qui te menace, tandis que notre sollicitude éveillée sur tes périls est pour nous un tourment de toutes les heures. Écoute ce que nous avons appris de science certaine, et ce que notre vive sympathie ne nous permet pas de te sceller. Un horrible serpent, dont le corps se recourbe en innombrables replis, dont le cou est gonflé d'un sang venimeux, dont la gueule s'ouvre comme un gouffre immense. Voilà l'époux qui chaque nuit vient furtivement partager ta couche. Rappelle-toi l'oracle de la pitié, ce fatal arrêt qui te livre aux embrassements d'un monstre. Il y a plus, nombre de témoins, paysans, chasseurs ou bourgeois de ce visage, l'ont vu le soir revenir de la pâture et traverser le fleuve à la nage. Personne ne doute qu'il ne te tienne ici comme en mue, au milieu de toutes ces délices, et qu'il attend seulement pour te dévorer, que ta grossesse plus avancée lui offre une chair plus copieuse. C'est à toi de voir si tu veux écouter tes sœurs tremblantes pour une sœur qu'elles aiment, et si tu n'aimes pas mieux vivre tranquillement au milieu de nous que d'avoir les entrailles d'un monstre dévorant pour sépulture. Trouves-tu plus de charme dans cette solitude peuplée de voix, dans ces amours clandestins, dans ces caresses nauséabondes et empoisonnées, dans cet accouplement avec un reptile? Bon, soit, du moins nous aurons fait notre devoir en bonne sœur. La pauvre Psyché, dans sa candide inexpérience, reçut comme un coup de foudre cette formidable révélation. Sa tête s'égara. Tout fut oublié, les avertissements de son mari, ses propres promesses, et elle alla donner tête baissée dans l'abîme ouvert sous ses pas. Ses genoux fléchissent, la pâleur de la mort couvre son visage et ses lèvres tremblantes livrent à peine passage à ces mots entrecoupés. Chère sœur, je n'attendais pas moins de votre affection si tendre. Oui, je ne vois que trop de vraisemblance dans les rapports que l'on vous a faits. Effectivement, je n'ai jamais vu mon époux. Je ne sais pas d'où il vient. Sa voix ne se fait entendre que la nuit, il ne me parle qu'à l'oreille. Il fuit soigneusement toute lumière. C'est quelque monstre, dites-vous ? Je n'hésite pas à le croire, car il n'est peur qu'il ne me fasse de sa figure et des terribles conséquences de ma curiosité au cas où je chercherais à le voir. Si votre assistance peut conjurer un tel danger, oh, ne me la refusez pas. Que sert le protéger si l'on ne protège pas jusqu'au bout ? Les deux scélérates voient la brèche ouverte. Elles démasquent alors leur attaque, se ruent sur le corps de la place et exploitent la force ouverte les terreurs de la simple psyché. L'une d'elles lui parle ainsi. « Il s'agit de te sauver. Les liens du sang nous obligent à fermer les yeux sur nos propres périls. Un seul moyen se présente. Nous l'avons longtemps médité. Écoute. Prends un poignard bien aiguisé. Donne-lui de fil encore en passant doucement la lame sur la paume de ta main. Puis va le cacher soigneusement dans ton lit du côté où tu te couches d'ordinaire. » Munis-toi également d'une petite lampe bien fournie afin qu'elle jette plus de lumière. Tu trouveras bien moyen de la placer, inaperçue derrière le rideau. Et tout cela dans le plus grand secret. Il ne tardera pas à venir, traînant sur le plancher son corps sinueux, prendre au lit sa place accoutumée. Attends qu'il soit étendu tout son long et que tu l'entendes respirer pesamment comme il arrive dans l'engourdissement du premier sommeil. Alors glisse-toi hors du lit et va, sans chaussures, à petits pas et sur la pointe du pied, tirer ta lampe de sa cachette. Sa lueur te servira à bien prendre tes mesures pour mettre fin à la généreuse entreprise. Saisis alors l'arme à deux tranchants, lève hardiment le bras, frappe le monstre sans hésiter à la jointure du cou et de la tête et tu feras de son corps deux tronçons. Notre assistance ne te manquera pas. Aussitôt que par sa mort tu auras opéré ta délivrance, nous serons à tes côtés. Nous t'emmènerons avec nous, sans oublier toutes ces richesses, et par un hymne de ton choix, nous t'unirons, toi, créature humaine, à un être qui soit de l'humanité. » Quand elles crurent avoir assez attisé le feu dans le cœur de Psyché par ce langage incendiaire, elles se hâtent de s'esquiver, redoutant fort pour leur personne la proximité du théâtre de la catastrophe. Elles font, comme à l'ordinaire, l'ascension du rocher sur les ailes du vent. Puis, courant à toutes jambes vers leur vaisseau, elles s'embarquent et quittent le pays. Le dévoilement de Cupidon. Psyché est restée livrée à elle-même, c'est-à-dire obsédée par les furies. Le trouble de son cœur est celui d'une mère orageuse. Son dessein est arrêté, elle s'y obstine, et ses mains déjà s'occupent des sinistres préparatifs que son âme doute et flotte encore. Les émotions s'y combattent. Tour à tour elle veut, elle ne veut pas, menace et tremble, s'emporte et mollit. Pour tout dire en un mot, dans le même individu, elle déteste un monstre et elle adore son époux. Cependant, le soir est venu, la nuit va suivre, elle s'occupe à la hâte des préliminaires du forfait. Il est nuit, l'époux est à son poste, il livre un premier combat, prélude de sa campagne nocturne, puis s'endort d'un sommeil profond. La force abandonne alors Psyché, le cœur lui manque. Mais le sort a prononcé, le sort est impitoyable, son énergie revient. Elle avance la lampe, saisit son poignard, adieu la timidité de son sexe. Mais à l'instant, la couche s'illumine, et voilà ses mystères au grand jour. Psyché voit, quel spectacle, le plus aimable des monstres, et le plus privé, Cupidon lui-même, ce dieu charmant, endormi dans la plus séduisante attitude. Au même instant, la flamme de la lampe se dilate et pétille, et le fer sacrilège reluit d'un éclat nouveau. Psyché reste atterrée à cette vue, et comme privée de ses sens. Elle pâlit, elle tremble, elle tombe à genoux. Pour mieux cacher son fer, elle veut le plonger dans son sein, et l'effet eût suivi l'attention si le poignard, comme effrayé, le se rendre complice de l'attentat, n'eût échappé soudain de sa main égarée. Elle se livre au désespoir, mais elle regarde pourtant, et regarde encore les traits merveilleux de cette divine figure, et se sent comme renaître à cette contemplation. Elle admire cette tête radieuse, cette auréole de blonde chevelure d'où s'exhale un parfum d'ambroisie, ce cou blanc comme le lait, ces joues purpurines encadrées de boucles dorées qui se partagent gracieusement sur ce beau front, où s'étage derrière la tête et dont l'éclat éblouissant fait pâlir la lumière de la lampe. Aux épaules du dieu volage semblent pousser deux petites ailes d'une blancheur nuancée de l'incarnat du cœur d'une rose. Dans l'inaction même, on voit palpiter leur extrémité délicate qui jamais ne repose. Tout le reste du corps joint au blanc le plus uni des proportions les plus heureuses. Oh, la déesse de la beauté peut être fière du fruit qu'elle a porté. Au pied du lit gisaient l'arc, le carquois et les flèches, un signe du plus puissant des dieux. La curieuse psyché ne se lasse pas de voir, de toucher, d'admirer en extase les redoutables armes de son époux. Elle tire du carquois une flèche, et pour en essayer la trempe, elle en appuie le bout sur son pouce, mais sa main qui tremble en tenant le trait imprime à la pointe une impulsion involontaire. La piqûre entame l'épiderme et fait couler quelques gouttes d'un sang rosé. Ainsi, sans s'en douter, Psyché se rendit elle-même amoureuse de l'amour. De plus en plus éprise de celui par qui l'on s'éprend, elle se penche sur lui, la bouche ouverte, et le dévore de ses ardents baisers. Oh, elle ne craint plus qu'une chose, c'est que le dormeur ne s'éveille trop tôt. Mais tandis qu'ivre de son bonheur, elle s'oublie dans ses transports trop doux, la lampe, ou perfide, ou jalouse, ou que sais-je, impatiente de toucher aussi ce corps si beau, de le baiser, si j'ose le dire, à son tour, épanche de son fouillet lumineux une goutte d'huile bouillante sur l'épaule droite du dieu. Ô lampe maladroite et téméraire, ô trop indigne ministre des amours, faut-il que par toi, le dieu qui met partout le feu, connaisse aussi la brûlure, par toi qui dut l'être sans doute au génie de quelque amant jaloux des ténèbres et qui voulait leur disputer la présence de l'objet adoré. La fuite de Cupidon. Le dieu brûlé se réveille en sursaut. Il voit le secret trahi, la foi violée, et sans dire un seul mot, il va fuir à tire-d'aile les regards et les embrassements de son épouse infortunée. Mais au moment où il se lève, Psyché saisit à bras le corps sa jambe droite, s'y cramponne, le suit dans son essor, tristement suspendu à lui jusqu'à la région des nuages. Et lorsqu'enfin la fatigue lui fait lâcher prise, elle tombe sans mouvement par terre. Cupidon, attendri, répugne à l'abandonner en cet état. Il vole sur un cyprès voisin et d'une voix profondément émue. « Trop crédule Psyché, dit-il, pour vous j'ai enfreint les ordres de ma mère. Au lieu de vous avilir comme elle le voulait par une ignoble passion, par un indigne mariage, je me suis moi-même offert à vous pour amant imprudent. Je me suis, moi, si habile archer, blessé d'une de mes flèches, j'ai fait de vous mon épouse. Et tout cela pour me voir pris pour un monstre, pour offrir ma tête au fer homicide, sans doute parce qu'il s'y trouve deux yeux trop épris de vos charmes. J'ai tout fait pour tenir votre prudence éveillée. Ma tendresse a prodigué des avertissements, mais sous peu j'aurai raison de vos admirables conseillères et de leur funeste insinuation. Quant à vous, c'est en vous fuyant que je veux vous punir. » En achevant ces mots, il se lance en oiseau dans les airs. L'intervention du dieu Pan. Psyché, prosterné sur la terre, suivit longtemps des yeux son époux dans l'espace, tout en le rappelant par ses cris lamentables, et quand un vol rapide l'eut élevé à perte de vue, elle se lève et court se précipiter dans un fleuve voisin. Mais le fleuve eut compassion de l'infortuné, et par respect pour le dieu qui fait enflammer même les ondes, par crainte peut-être, il la soulève sur ses flots et la dépose pleine de vie, sur le gazon fleuri de ses rivages. Le rustique dieu Pan se trouvait là par hasard, assis sur la berge. Il tenait entre ses mains ses roseaux qui furent jadis la nymphe Kama et les faisait résonner sur tous les tons. Son troupeau capricieux folâtrait en broutant çà et là l'herbe du rivage. Le dieu chèvre-pied, apercevant la belle affligée, dont l'aventure ne lui était pas inconnue, l'invite à s'approcher et lui adresse quelques mots de consolation. Ma belle enfant, je ne suis qu'un gardeur de chèvres, un peu rustre, il est vrai, mais j'ai beaucoup vécu et acquis raisonnablement l'expérience. Or, si je sais bien former mes conjectures, ce que les gens de l'art appellent être devin, cette démarche égarée et chancelante, cette pâleur universelle, ces continuels soupirs et surtout ces yeux noyés dans les larmes, tout cela me dit que vous souffrez du mal d'amour. Croyez-en mon conseil, renoncez à chercher la mort dans les flots ou par toute autre voie, séchez vos pleurs, défaites-vous de cet air chagrin, offrez vos prières avec ferveur au grand dieu Cupidon, et comme c'est un enfant gâté, sachez le prendre et flattez ses fantaisies. La punition des deux sœurs. Ainsi parla le dieu pasteur. Psyché ne répondit rien, elle s'inclina devant le dieu et se mit en marche. Après avoir longtemps et péniblement erré à l'aventure, elle se trouve dans un sentier en pente qui l'amène inopinément à la ville où régnait le mari d'une de ses sœurs. Aussitôt qu'elle en fut informée, elle fait annoncer sa venue. Elle est introduite, et après les baisers et les politesses d'usage, on lui demande son histoire. Psyché commence ainsi. Il vous souvient du conseil que vous me donnâtes d'accord avec notre autre sœur. Abusé, disiez-vous, par un monstre qui venait, se donnant pour mari, passer les nuits avec moi, il fallait, sous peine de servir de pâture à cette bête féroce, le frapper d'un poignard à deux tranchants. Et j'y étais bien décidé. Mais lorsque, toujours par votre conseil, j'approchais la lampe qui devait me découvrir ses traits, quel divin spectacle va s'offrir à mes regards charmés. C'était le fils de la déesse Vénus, Cupidon lui-même, endormi d'un paisible sommeil. Éperdu, ivre de volupté, je cédais au désir de mes sens. Tout à coup, aux douleurs, une goutte d'huile brûlante tombe sur son épaule. Il se réveille en sursaut, et voyant de mes mains le fer et la flamme, « Va, me dit-il, ton crime est impardonnable. Sors à jamais de mon lit, plus rien de commun entre nous. C'est ta sœur, et il prononça votre nom, que je veux désormais pour épouse. » Il dit, et sur son ordre, le souffle de Zéphyr me transporte hors du palais. Psyché n'avait pas fini de parler, qu'enivrée du succès de sa ruse, sa sœur brûle d'en recueillir les coupables fruits. Pour tromper son mari, elle feint qu'on vient de lui apprendre la mort de ses parents, s'embarque en toute hâte et fait voile vers le rocher. Zéphyr ne soufflait pas alors, mais dans l'espoir qu'il aveugle. « Cupidon, dit-elle, reçois une épouse digne de toi, et toi, Zéphyr, soutiens ta souveraine. » Et soudain, elle s'élance de plein saut. Mais elle ne peut même marbre arriver morte où elle voulait aller, car les saillies des rocs se renvoyèrent les débris de ses membres, et par un sort trop mérité, les lambeaux dispersés de son corps devinrent à moitié chemin la pâture des bêtes féroces et des oiseaux de proie. L'autre punition ne tarda guère. Psyché, continuant sa route vagabonde, arriva dans la ville où résidait sa seconde sœur. Celle-ci, dupe de la même fiction et rêvant comme sa devancière le criminel honneur de supplanter sa cadette, courut vite au rocher et y trouva même fin. Vénus, informée, s'en prend violemment à Cupidon. Pendant que Psyché courait ainsi le monde à la recherche de Cupidon, Cupidon, malade de sa brûlure, gémissait couché sur le lit même de sa mère. Or, cet oiseau blanc qui rase de l'aile la surface des mers, plongeant dans les profondeurs de l'océan, va trouver Vénus qui se baignait en se jouant au milieu des flots. Il lui annonce, en l'abordant, que son fils s'est fait une grande brûlure dont la guérison est incertaine. Il ajoute que les bruits les plus fâcheux se répandent sur elle et sur sa famille. La mère et le fils, disait-on, ne sont plus occupés l'un que d'une intrigue d'amour sur une montagne et l'autre que du plaisir de nager au fond des mers. Adieu la volupté, adieu les grâces, adieu les jeux et les ris. Tout s'enlaidit, se rouille, s'assombrit dans la nature. Plus de tendres nœuds, de commerce d'amitié, d'amour filial. Oh, le désordre règne. Ce n'est plus qu'une dissolution générale, un affreux dégoût de tout ce qui entretient l'union et fait le charme de la vie. La volatile babillarde n'oublia rien dans son rapport de ce qui pouvait irriter Vénus contre son fils. « Ah !» dit la déesse irritée. « Mon bon sujet de fils a fait une maîtresse. Voyons, toi, seule créature qui me montre du zèle, dis-moi le nom de la femme assez osée pour faire les avances à un enfant de cet âge. Est-ce une des heures, une nymphe, une muse ou l'une des grâces de ma suite ?» L'oiseau jaseur du garde de se taire. « Maîtresse, je ne sais trop, répondit-il, mais il y a de par le monde une jeune fille du nom de Psyché, si je ne me trompe, dont on le dit passionnément épris. »« Qui ? » s'écria Vénus, tout à fait outrée. « Cette Psyché qui se mêle d'être aussi belle que moi, qui s'ingère de porter mon nom ? C'est celle-là qu'il aime ? Ce marmot apparemment s'est servi de moi comme entremetteuse. » C'est moi qui leur ai mis le doigt sur cette donzelle. Tout en grondant, elle sort précipitamment des ondes et se dirige vers la couche d'or où repose le dieu malade. De la porte, elle lui crie de sa plus grosse voix : Belle conduite en vérité pour un enfant discret et sage. Est-ce là le cas que vous faites des ordres d'une mère, d'une souveraine ? Au lieu de livrer mon ennemi à d'ignobles amours, vous osez, enfant libertin, lui prodiguer vos caresses précoces et chercher dans ses bras des plaisirs défendus à votre âge? Vous prétendez m'imposer pour bru la femme que je déteste? Ah, ça croyez-vous petit drôle, séducteur avorton, enfant insupportable, que seul vous soyez en état d'avoir ligné et que moi je sois hors d'âge? Oh bien! Sachez que je veux avoir un fils qui vous remplacera et qui vaudra mieux que vous. Tenez, afin que l'affront soit plus sensible, j'adopterai quelqu'un de mes serviteurs et je le doterai de ses ailes, de ce flambeau, de cet arc et de ces flèches que je vous avais confiés pour un meilleur usage, car tout cet équipement m'appartient et il n'en est pas une pièce qui vous vienne de votre père. On vous a gâté dès l'enfance. Vos mains n'ont jamais eu que cri gratigner et battre ce que vous devez à respect. Moi-même, moi, votre mère, enfant dénaturé, ne suis-je pas journellement volé par vous et quelquefois battu? Vous n'en useriez pas autrement avec moi si j'étais veuve. Et votre beau-père, ce grand et formidable guerrier, ne vous impose même pas. Oh, je le crois bien, au surplus, pour me faire enrager. Vous vous êtes mis sur le pied de lui procurer de bonnes fortunes. Mais le jeu vous coûtera cher, et ce beau mariage ne sera pas tout rose pour vous, je vous le promets. Suis-je assez bafoué? Mais que faire, que résoudre? Comment avoir raison de ce petit vaurien? Irais-je mendier le secours de la sagesse, elle qui m'a vu si souvent lui rompre en visière, toujours pour les frasques de ce mignon? La créature d'ailleurs la plus désobligeante et la plus mal peignée. Ah, j'en ai le frisson. Mais il est si bon de se venger coûte que coûte. Allons, J'irai trouver la sagesse, oui, la sagesse. Du moins mon fripon sera châtié de main de maître. Elle videra son carquois, désarmera ses flèches, détendra son arc, éteindra son flambeau et ne ménagera pas non plus sa petite personne. Je ne serai point satisfaite qu'elle n'ait érasé cette chevelure dorée que j'ai si souvent peignée de mes propres mains et renié ses ailes, autrefois arrosées du nectar de mon sein. » Elle dit et sort furieuse tout en continuant d'exhaler sa bile. Elle est accostée par Junon et Cérès, qui, la voyant le teint allumé, lui demande pourquoi ce sourcil froncé qui obscurcit le brillant de ses yeux. « Ah, je vous rencontre à propos, leur dit-elle. La colère pourrait me porter à quelque excès, mais je vous en conjure, aidez-moi de tous vos efforts à retrouver cette psyché qui s'est enfuie, envolée je ne sais où. Car vous n'en êtes pas à apprendre le scandale de ma maison, elle est au fait de celui que je ne veux plus appeler mon fils. » Les deux déesses, bien instruites de l'aventure, essaie d'apaiser la grande colère de Vénus. « Mais madame, qu'a-t-on fait votre fils pour motiver cet acharnement contre lui et cette hostilité si violente contre celle qu'il aime? Où est le crime, s'il vous plaît, de faire les yeux doux à une jolie fille? Vous n'ignorez pas qu'il est garçon, sans doute, et de plus grand garçon? Auriez-vous oublié la date de sa naissance? Ou parce qu'il porte si gentiment ses années, vous obstinez-vous à le voir toujours enfant? Vous, sa mère, vous, femme de sens, vous iriez d'un œil curieux épier ses amusements, lui faire un crime de ses petites fredaines, contrecarrer ses amourettes et condamner enfin, dans ce beau jouvenceau, vos propres gentilles pratiques et les doux passe-temps que vous ne vous refusez pas? Singulière prétention d'aller semant l'amour partout et de le prohiber dans vos domaines, d'exclure vos enfants du droit commun de prendre part aux faiblesses du beau sexe. Ah, l'on ne vous passera pas, ni au ciel, ni sur la terre. Ainsi les officieuses déesses prennent la défense de l'absent, dont elles redoutent les flèches, mais Vénus, qui n'entend pas raillerie sur les torts dont elle se plaint, leur tourne le dos et précipite ses pas vers la mer. Psyché, cependant, allait errante à l'aventure. Jour et nuit, elle cherche son époux. Le sommeil la fuit et sa passion s'en exalte encore. Il s'agit pour elle non plus d'attendrir un époux, mais de désarmer un maître. Au sommet d'une montagne escarpée, elle aperçoit un temple. « Qui sait ? » dit-elle. Peut-être est-ce là le séjour de mon souverain seigneur. Et la voilà, oubliant ses fatigues, qui court d'un pas rapide vers ce but de son espoir et de ses vœux. Elle gravit intrépidement la hauteur et s'approche du sanctuaire. Elle y voit amonceler des épis d'orge et de froment dont une partie était tressée en couronne. Il y avait aussi des faux et tout l'attirail des travaux de la moisson. Mais tout cela pêle-mêle est jeté au hasard, comme il arrive quand l'excès de la chaleur fait tomber l'outil des mains du travailleur fatigué. Psyché s'occupe aussitôt à débrouiller cette confusion et à remettre chaque chose en ordre et en place, persuadée qu'il y a pour elle détail de culte, si observance à y négliger, et qu'il n'est aucun dieu dont elle n'ait à se concilier la bienveillance et la pitié. Tandis qu'elle vaque à ce soin consciencieusement et sans relâche, arrive Cérès, la nourricière, qui la trouve à l'ouvrage. « Ah, malheureuse Psyché ! » s'écria-t-elle avec un soupir prolongé. « Vénus en courroux cherche partout l'univers la trace de tes pas. Elle veut ta mort. Elle se vengera de tout son pouvoir de déesse, et toi ? Je te trouve ici, uniquement occupé de mon service, et ne songeant à rien moins qu'à ta propre sûreté. » Psyché se prosterne aux pieds de Cérès, les inonde de ses larmes et, balayant le sol de ses cheveux, implore la déesse sous toutes les formes de prière. Par cette main prodigue des trésors de l'abondance, par les rites joyeux de la moisson, par votre attelage ailé de dragons obéissants, par les fertiles sillons de la Sicile, par le char ravisseur, par la terre receleuse, par la descente de Proserpine aux enfers et son ténébreux hyménée, par la triomphante illumination de votre retour après l'avoir retrouvé, par tous les mystères enfin que le sanctuaire de l'antique Eleusis renferme et protège de son silence sacré, prenez en pitié la malheureuse Psyché qui vous supplie. Souffrez que je me cache pour quelques jours dans cet amas d'épis, où ce temps suffira pour calmer le courroux de ma redoutable ennemie, où je pourrai du moins retrouver mes forces, épuisées par tant de fatigues. Cérès lui répond, oui, je suis touché de tes prières et de tes larmes, et je voudrais te secourir, mais Vénus est ma parente. C'est une ancienne amie, bonne femme d'ailleurs, que je ne veux en rien contrarier. Il te faut donc sortir un instant de ce temple et sache-moi gré de ne pas t'y retenir prisonnière. Refusée contre son espoir, Psyché s'éloigne, emportant dans son cœur un chagrin de plus. Elle revenait tristement sur ses pas, quand son œil, plongeant au fond d'un vallon, découvre un autre temple dont l'élégante architecture se dessinait dans le demi-jour d'un bois sacré. Décidée à ne négliger aucune chance, même douteuse, de salut et à se mettre sous la protection d'une divinité quelconque, elle s'avance vers l'entrée de l'édifice. Là se présentent à sa vue les plus riches offrandes. Aux portes sacrées ainsi qu'aux arbres environnants étaient suspendues des robes magnifiques, et sur leur tissu la reconnaissance avait brodé en lettres d'or, avec le nom de la déesse, le sujet de chaque action de grâce qu'on lui rendait. Psyché fléchit le genou, embrasse l'autel tiède encore, et après avoir essuyé ses larmes, elle fait cette prière. Épouse et sœur du grand Jupiter, toi qui habites un temple antique dans cette Samos, si fière d'avoir entendu tes premiers vagissements et de t'avoir vu presser le sein de ta nourrice, toi que l'altière Carthage aux opulentes demeures honore sous les traits d'une vierge traversant les airs avec un lion pour monture, toi qui, sur les bords que l'Inachus s'arrose, présides au mur de la célèbre Argos qui t'adore. Et toi, la reine des déesses, l'épouse du maître du tonnerre, toi que l'Orient vénère sous le nom de Zyglée et qu'invoque l'Occident sous celui de Lucine, alors montre-toi pour moi, Juno protectrice. La fatigue m'accable. Daigne me préserver des dangers qui me menacent. Jamais, je le sais, tu ne refuses ta protection aux femmes sur le point d'être mère. Pendant cette invocation, Junon lui apparaît dans tout l'éclat de la majesté céleste. Je ne demanderai pas mieux, dit-elle, que d'accueillir ta demande, mais me mettre en opposition avec Vénus ma bru, que j'aime comme ma fille, le puis-je vraiment avec convenance? Et puis il y a des lois qui défendent de recueillir les esclaves fugitifs, et je dirais pas y porter atteinte. Vénus fait lancer par Mercure un avis de recherche, et Psyché décide de se livrer. Découragée de ce nouvel échec, et renonçant à suivre un mari qui a des ailes, Psyché se livre à de cruelles réflexions. Où chercher du secours ? Quand des déesses mêmes ne me témoignent qu'une bonne volonté stérile, où porter mes pas, quand tant de pièges m'environnent? Quel toit, quelle retraite assez obscure pour me cacher à l'œil inévitable de la toute-puissante Vénus? Allons, Psyché, une résolution énergique, plus d'illusions frivoles. Va de toi-même te remettre aux mains de ta souveraine. Ta soumission, pour être tardive, peut encore la désarmer. Qui sait, peut-être celui que tu cherches va-t-il se retrouver dans le palais de sa mère. Ainsi décidé à cette soumission hasardeuse, dut-elle y trouver sa perte ? Psyché déjà préparait son exorde. Cependant Vénus, qui a épuisé tous les moyens d'investigation sur Terre, en va demander au ciel. Elle ordonne qu'on attelle son char d'or, œuvre merveilleuse de l'art de Vulcain, qui lui en avait fait hommage comme présent de noces. La riche matière a diminué sous l'action de la lime, mais en perdant de son poids, elle a doublé de prix. De l'escadron ailé qui roucoule près de la chambre de la déesse, se détachent 4 blanches colombes. Elles s'avancent en se regorgeant et viennent d'un air joyeux passer d'elles-mêmes leur cou chatoyant dans un joug brillant de pierreries. Leur maîtresse monte, elles prennent gaiement leur vol. Une nuée de passereaux folâtres gazouillent autour du char. D'autres chantres des airs, au gosier suave, annoncent par leurs doux accents l'arrivée de la déesse. Les nuées lui font place, le ciel ouvre ses portes à sa fille chérie, et l'empyré tressaille d'allégresse à sa venue. L'harmonieux cortège défile sans avoir à craindre la rencontre de l'aigle ni du vorace épervier. Vénus va droit à la royale demeure de Jupiter, et la fière solliciteuse demande hardiment qu'il lui prête le ministère de Mercure, car il lui faut la meilleure poitrine de l'Olympe. Signe d'assentiment des noirs sourcils. Vénus revient triomphante, et tout en descendant des cieux avec Mercure, lui dit d'un ton animé. Mon frère l'Arcadien, vous savez que votre sœur Vénus ne fait jamais rien sans vous. Vous n'ignorez pas non plus que je suis en quête d'une esclave à moi qui se cache et que je perds mon temps à la chercher. Je n'ai plus qu'une ressource, c'est de faire proclamer que je promets récompense à qui la trouvera. Je compte sur vous pour me rendre sans tarder ce bon office. Surtout que son signalement soit clair et précis. S'il y a lieu plus tard de poursuivre quelque receleur en justice, qu'on ne puisse prétexter cause d'ignorance. Là-dessus, elle remet par écrit à Mercure le nom de Psyché, avec les indications nécessaires, et regagne son palais. Mercure, empressé de s'acquitter de la commission, se met à parcourir la terre, proclamant partout ce qui suit. On fait savoir qu'une fille de roi, du nom de Psyché, esclave de Vénus, a pris la fuite. Quiconque pourra la livrer ou indiquer sa retraite recevra pour sa peine 7 baisers de la bouche même de Vénus, puis un 8e emmiêlé de ce que ses lèvres de plus doux. S'adresser pour la réponse au crieur Mercure derrière les pyramides musiciennes. À cette annonce, on juge quelle excitation l'espoir d'un pareil prix dut produire chez les mortels. Cette circonstance acheva de détruire toute irrésolution dans l'esprit de Psyché. Vénus accueille très durement Psyché. Déjà, elle approchait les portes de sa maîtresse. L'habitude, une des suivantes de Vénus, accourt en criant du plus haut ton de sa voix. « Te voilà donc, servante détestable. Enfin, tu te souviens que tu as une maîtresse. » Ne vas-tu pas, avec l'effronterie dont tu es pourvu, feindre d'ignorer quelle peine nous avons eue à courir après toi? Par bonheur, c'est dans mes mains que tu tombes, autant vaudrait pour toi les griffes de l'enfer. Ah, tu vas recevoir le prix de ta rébellion. » Et la saisissant par les cheveux, elle entraîne la pauvrette qui n'oppose aucune résistance. En voyant sa victime devant elle et comme offerte à ses coups, Vénus poussa un grand éclat de rire, de ce rire que produit souvent l'excès de la colère. « Enfin, dit-elle en secouant la tête et se frottant l'oreille droite, vous daignez venir saluer votre belle-mère. N'est-ce pas à votre mari, malade par votre fête, que s'adresse l'honneur de votre visite? Oh, soyez tranquille, on vous traitera comme le mérite une aussi estimable belle-fille. » Où sont, dit-elle, mes deux servantes, l'inquiétude et la tristesse ? On les introduit, et Vénus livre Psyché à leurs mains cruelles. Suivant l'ordre qu'elles ont reçu, elles la frappent de verges, la torturent de mille manières, puis la ramènent en présence de leur maîtresse. Vénus se mit de nouveau à rire. « Oh, voici, dit-elle, un gros ventre, bien fait pour me disposer la commisération. Cette belle progéniture va faire de moi une si heureuse grand-mère. Grand-mère, n'est-ce pas bien réjouissant de s'entendre donner ce nom et d'avoir pour petit-fils l'enfant d'une vile servante ? Mais je suis folle en vérité d'appeler cela mon fils. Ce mariage disproportionné, consommé dans une campagne sans témoin, sans le consentement du père, ne saurait être légitime. Le marmot sera bâtard. Supposez que je lui donne le temps de naître. » Première épreuve, le tri des grains. En proférant ces mots, elle s'élance sur la pauvre Psyché, met sa robe en pièces, lui arrache les cheveux et lui meurtrit de coups la tête. Ensuite, elle se fait apporter du froment, de l'orge, du millet, de la graine de pavot, des pois, des lentilles et des fèves. Elle mêle et confond le tout, et s'adressant à sa victime. Une servante, une créature si disgraciée, doit être une habile personne pour avoir su se faire si bien venir. Eh bien, je veux essayer ton savoir-faire. Tu vois, c'est un mas de graines confondues. Tu vas me trier tout, séparer chaque espèce et en faire autant de tas. Je te donne jusqu'à ce soir pour m'expédier cette tâche. » Et après avoir taillé cette belle besogne, la déesse sort pour se rendre à un repas de noces. Psyché ne songe même pas à mettre la main à ce chaos inextricable. Elle reste immobile et stupéfaite d'une exigence aussi extravagante. Alors la fourmi, chétive habitante des champs, qui pouvait si bien apprécier la difficulté d'une semblable tâche, prend en pitié l'épouse d'un dieu qu'elle y voit impitoyablement condamnée. Tout indignée de cet acte de marâtre, elle court convoquer le banc des fourmis de son quartier. « Soyez compatissante, fille alerte de la terre, vite au travail. Une femme aimable, l'épouse de l'amour, a besoin de vos bons offices. » Aussitôt l'agent aux mille pieds de se ruer, de se trémousser par myriades. En un clin d'œil, tout cet amas confus et divisé, classé par espèce, distribué en autant de tas distincts, et zeste, tous les travailleurs ont disparu. Vers le soir, revient de la fête Vénus, échauffée par les rasades, arrosée de parfums et couverte de guirlandes de roses. Elle voit avec quel soin merveilleux la tâche a été remplie. « Ce n'est pas toi, coquine, cria-t-elle, qui a fait cette besogne. J'y reconnais la main de celui à qui tu as trop plu, pour ton malheur et pour le sien. » Là-dessus, elle jette à Psyché un morceau de pain et va se mettre au lit. Deuxième épreuve, les brebis à la toison d'or. Cependant, Cupidon, confiné au fond du palais, y subissait une réclusion sévère. On craint qu'il n'aggrave sa blessure par son agitation turbulente. Surtout, on veut le séquestrer de celle qu'il aime. Ainsi séparés, bien que sous le même toit, les deux amants passèrent une nuit cruelle. Le char de l'aurore se montrait à peine que Vénus fit venir Psyché et lui dit « Vois-tu ce bois bordé dans toute sa longueur par une rivière dont les eaux sont déjà profondes, bien qu'encore voisines de leur source. Un brillant troupeau de brebis à la toison dorée y paît, sans gardien à l'aventure. Il me faut un instant, à l'instant, un flocon de leur laine précieuse. Va et fais en sorte de me le rapporter sans délai. » Psyché, cours, vol, non pour accomplir l'ordre de la déesse, mais pour mettre un terme à ses maux dans les eaux du fleuve. Or voici que de son lit même, un vert roseau, doux organe d'harmonie, inspiré tout à coup par le vent qui l'agite et qui murmure, se met à prophétiser en ces termes. Pauvre Psyché, déjà si rudement éprouvée, garde-toi de souiller par ta mort la sainteté de mes ondes, et n'approche pas du formidable troupeau qui paît sur ce rivage. Tant que le soleil du midi darde ses rayons, ces brebis sont possédées d'une espèce de rage. Tout mortel alors doit redouter les blessures de leurs cornes acérées, le choc de leur front de pierre et la morsure de leurs dents venimeuses. Mais une fois que le méridien aura tempéré l'ardeur de l'astre du jour, que les brises de la rivière auront rafraîchi le sang de ces furieux animaux, oh, tu pourras sans crainte gagner ce haut platane nourri des mêmes eaux que moi et trouver sous son feuillage un surabri. Alors tu n'auras pour te procurer de la laine d'or qu'à secouer les branches des arbres voisins, où elles s'attachent par flocons. » Ainsi le bon roseau faisait entendre à Psyché de salutaires conseils. Elle y prêta une oreille attentive et n'eut pas lieu de s'en repentir, car en suivant ses instructions, elle eut bientôt fait sa collecte furtive et retourna vers Vénus, le sein rempli de cet or amolli en toison. Troisième épreuve, l'eau de la source du Styx. Psyché ne se vit pas mieux accueillie après le succès de cette seconde épreuve. Vénus, fronçant le sourcil, dit avec un sourire amer, « Ah, toujours la même protection frauduleuse !»« Mais je vais faire un essai décisif de ce courage si ferme et de cette conduite si prudente. » « Vois-tu ce rocher qui se dresse au sommet de cette montagne escarpée ? Là jaillit une source dont les eaux noirâtres, recueillies d'abord dans le creux d'un vallon voisin, se répandent ensuite dans les marais du Styx et vont grossir les rauques ondes du Cocyte. Tu iras au jet même de la source, puisée de son onde glaciale, et tu me la rapporteras dans cette petite bouteille. » Elle dit et lui remet un flacon de cristal poli en accompagnant l'injonction des plus terribles menaces. Psyché hâte le pas pour gagner le sommet du mont, croyant bien cette fois y trouver le terme de sa misérable existence. Arrivée au haut, elle voit toute l'étendue et la mortelle difficulté de sa tâche et quel péril il lui faut surmonter. En effet, le rocher s'élevait à une hauteur effroyable, et c'était à travers ces flancs abrupts d'un escarpement inaccessible que l'onde formidable trouvait passage. Elle s'échappait par une foule de crevasses, d'où elle glissait perpendiculairement, et s'encaissait ensuite dans une rigole étroite et profonde, qui la conduisait inaperçue jusqu'au fond du vallon. Du creux des rocs qui enfermaient ces deux rives, on voyait s'allonger de droite et de gauche d'affreuses têtes de dragons aux paupières immobiles, aux yeux constamment ouverts, gardiens terribles et qui ne s'endorment ni ne se laissent gagner. De plus, ces eaux étaient parlantes et savaient se défendre elles-mêmes. « Arrière, arrière, que fais-tu? Où vas-tu? Prends garde, fuis, tu mourras !» Tels étaient les avertissements qu'elle ne cessait de faire entendre. Psyché resta pétrifiée en voyant l'impossibilité de sa tâche. Présente de corps, elle est absente par ses sens. Accablée par la conscience de son danger, elle n'a même pas la triste ressource des larmes. Mais une providence tutélaire veillait sur cette âme innocente. Le royal oiseau de Jupiter, l'aigle aux serres ravissantes, parut tout à coup, déployant ses grandes ailes. Il n'a pas oublié combien il fit autrefois sa cour au souverain des dieux par le rapt de ce jeune phrygien qui lui sert à boire et que ce fut Cupidon lui-même qui l'inspira. Des hauteurs de l'Olympe, il vient offrir bien à propos son assistance, jaloux de se rendre agréable au mari en secouant sa jeune épouse. Le voilà donc qui voltige autour de Psyché et lui dit « Et quoi, pauvre innocente, croyez-vous que vos mains novices puissent dérober une seule goutte de l'eau de cette fontaine? Vous flattez-vous d'approcher seulement de ces bords sacrés et terribles? Ne savez-vous pas que les dieux que Jupiter lui-même ne les nomme qu'en tremblant, qu'ils jurent par la majesté du Styx, comme vous autres mortels vous jurez par la puissance des dieux? Mais confiez-moi ce flacon. » Il dit, s'en empare, et ne tarde pas à le rapporter plein, passant et repassant, majestueusement soutenu par le balancement de ses puissantes ailes, entre ses deux rangs de gueules béantes, qui ne peuvent que montrer leurs dents terribles et darder sans effet leur triple langue. L'onde s'irrite et lui crie « Loin d'ici, sacrilège !» Mais il disait « C'est par ordre de Vénus !» Et ce mensonge adroit lui servit aussi de passeport. Psyché reçoit avec joie le flacon si heureusement rempli et le rapporte en toute hâte à Vénus. Mais rien n'apaise l'implacable déesse. Quatrième épreuve, l'expédition chez Proserpine. Avec un sourire sinistre et qui présage de nouvelles et plus périlleuses exigences, elle l'apostrophe en ces mots. « Il faut que tu sois magicienne, et magicienne est plus experte pour avoir mis si lestement de telles commissions à fin. » Mais voici, ma poulette, ce qu'il te faut encore faire pour moi. Prends cette boîte, et elle lui la remit une au même instant, et va de ce pas aux enfers, au sombre ménage de Pluton. Tu présenteras la boîte à Proserpine, et tu lui diras, « Vénus demande un peu de votre beauté, ce qu'il en faut pour un jour seulement, car toute sa provision s'est épuisée par la consommation qu'elle en a faite en servant de garde-malade à son fils. Va, et ne tarde pas à retourner, car je vais m'en servir avant de paraître au théâtre de l'Olympe. » Psyché crut recevoir le coup de grâce. Cette fois, l'ordre était clair. C'était tout simplement l'envoyer à la mort. Comment en douter? On voulait que d'elle-même, elle descendît au Tartare et visita les mânes. Sans plus tarder, elle court vers une tour élevée, avec l'intention de se précipiter du sommet. C'était, suivant elle, le meilleur et le plus court chemin pour aller aux enfers. Mais de la tour s'échappe tout à coup une voix. « Quelle est, pauvre enfant, cette idée de se jeter ainsi la tête la première? Pourquoi reculer devant cette épreuve et vous sacrifier sans but? Votre âme, une fois séparée du corps, ira bien en effet au fond du Tartare. » Mais pour n'en plus revenir, écoutez-moi. Lacédémone, cette noble cité de l'Achaïe, n'est pas loin. Elle touche au Ténare, où l'on n'arrive que par des sentiers peu connus. C'est un soupirail du sombre séjour de Pluton. Osez vous engager dans sa bouche béante. Devant vous s'ouvrira une route où nul n'a pas laissé de traces, et qui va vous conduire en ligne directe au palais de l'Orcus. Mais il ne faut pas s'aventurer dans ces ténèbres les mains vides. Ayez à chaque main un gâteau de farine d'orge pétri avec du miel, et à la bouche deux petites pièces de monnaie. Vers la moitié du chemin infernal, vous rencontrerez un âne boiteux chargé de fagots. L'ânier, boiteux aussi, vous demandera de lui ramasser quelques brins de bois tombés de sa charge. Passez outre et ne répondez pas. Bientôt vous arriverez au fleuve de l'Érèbe. Caron est là, exigeant son péage, car ce n'est qu'à prix d'argent qu'il passe les arrivants sur l'autre rive. Ainsi l'avarice vit encore chez les morts. Ni Caron, ni Pluton même, ce dieu si grand, ne font rien pour rien. Le pauvre en mourant doit se mettre en fond pour le voyage. Nul n'a droit de rendre l'âme que l'argent à la main. Vous donnerez à ce hideux vieillard, à titre de péage, une de vos deux pièces de monnaie. Il faut qu'il la prenne de sa main à votre bouche. En traversant cette onde stagnante, vous verrez flotter le corps d'un vieillard qui vous tendra ses mains cadavéreuses, vous priant de le tirer à vous dans la barque. La compassion ne nous est pas permise, n'en faites rien. Le fleuve franchi, vous rencontrerez à quelques pas de vieilles femmes occupées à faire de la toile et qui vous demanderont d'y mettre la main. Ne vous avisez pas d'y toucher. Autant de pièges tendus par Vénus. Oh, il vous en réserve bien d'autres pour vous amener à vous dessaisir de l'un au moins de vos gâteaux. N'en croyez pas la perte indifférente, il vous en coûterait la vie. Un énorme chien à trois têtes, monstre formidable, épouvantable, sans cesse aboyant aux mânes qui l'effraient dans leur pouvoir faire d'autres mal, jour et nuit fait sentinelle, noir vestibule de Proserpine. C'est le gardien du manoir infernal. Vous le ferez taire aisément en lui jetant un de vos gâteaux, et vous passerez outre. Vous pénétrerez ainsi jusqu'à Proserpine, qui vous fera le plus aimable accueil, vous engagera à vous asseoir et à prendre part à un somptueux festin, mais ne vous asseyez que par terre, et n'acceptez d'autre aliment que du pain noir. Vous exposerez ensuite l'objet de votre mission et vous prendrez ce qu'elle vous donnera. Cela fait, retournez sur vos pas. Vous vous rachèterez encore de la gueule du chien au prix de votre second gâteau. Vous repasserez le fleuve en livrant à l'avare nautonnier votre autre pièce de monnaie. Vous reprendrez le chemin que vous aurez suivi en venant et vous reverrez ainsi la voûte céleste, mais... sur toute chose, ne vous avisez pas d'ouvrir la boîte qui vous aura été confiée et de porter les yeux sur ce qu'elle renferme. Point de regard curieux sur ce trésor secret de la beauté divine. Ainsi parla cette tour prévoyante en véritable oracle. Psyché dirige aussitôt ses pas vers le Thénard. Muni de ses deux oboles et de ses deux gâteaux, elle descend rapidement le sentier souterrain, passe sans mot dire devant l'ânier boiteux, donne le péage au nocher, reste sourde aux instances du mort qui surnage, ne tient compte de l'appel insidieux des tisseuses, et après avoir endormi, en lui abandonnant son gâteau, la rage du gardien infernal, elle pénètre dans la demeure de Proserpine. En vain, son hôtesse lui offre un siège douillet et des mets délicats. Elle persiste à s'asseoir à ses pieds sur la terre et à n'accepter qu'un morceau de pain grossier. C'est dans cette posture qu'elle s'acquitte du message de Vénus. La boîte au contenu mystérieux lui est remise hermétiquement close, et après de nouveau fermer la gueule de la boyeur avec le second gâteau, désintéresser le nocher avec la seconde obole, elle quitte les enfers plus gaillardement qu'elle y était descendue, et elle revoit et adore la blanche lumière des cieux. Mais, tout empressée qu'elle est de terminer sa mission, une curiosité téméraire s'empare de son esprit. En vérité, se dit-elle, ce serait bien simple, moi qui porte la beauté des déesses, de n'en pas retenir un peu pour mon usage, quand ce serait peut-être le moyen de ramener le charmant objet que j'adore. En disant ces mots, elle ouvre la boîte. De beauté, point. Objet quelconque ne s'y montre. Mais à peine le couvercle s'est-il soulevé, qu'une vapeur léthargique, enfant de l'érèbe, s'empare des sens de Psyché, se répand comme un voile épais sur tous ses membres et la terrasse au milieu du chemin, où elle reste étendue dans l'immobilité du sommeil, ou plutôt de la mort. Cependant, la blessure de Cupidon s'était cicatrisée. La force lui était revenue et avec elle l'impatience de revoir sa psyché. Il s'échappe à travers l'étroite fenêtre de sa prison. Ses ailes, rafraîchies et reposées, le transportent en un clin d'œil près de son amante. Il la dégage avec soin du sommeil qui l'oppresse et qui le replace dans sa boîte. Puis de la pointe d'une de ses flèches, il touche légèrement Psyché et la réveille. Et quoi, malheureux enfant, encore cette curiosité qui te perd? Allons, à toi de t'acquitter de la commission de ma mère, moi j'aviserai au reste. À ces mots, l'amante ailée reprend son vol, et Psyché se dépêche de porter à Vénus le présent de Proserpine. Jupiter intervient en faveur de Psyché et fait d'elle une immortelle. Cependant Cupidon, que sa passion dévore et qui craint à l'Hercos et de sa mère que la sagesse ne vienne à se mettre de la partie, se résout à tenter les grands moyens. De son aile rapide, il perce la voûte des cieux, va présenter requête à Jupiter et plaide sa cause devant lui. Le maître des dieux pince doucement ses petites joues, les attire près de ses lèvres, les baise et lui dit « Monsieur mon fils, vous n'avez guère respecté en moi la suprématie déférée par le consentement des dieux. De moi, le régulateur des éléments, le moteur des révolutions célestes, vous avez fait le point de mire ordinaire de vos flèches. Vous m'avez compromis dans je ne sais combien d'intrigues amoureuses avec des mortels. » En dépit des lois, notamment de la loi Julia et de toute morale publique, vous avez chargé ma conscience, aussi bien que ma réputation, d'assez scandaleux adultères. Flammes, serpents, oiseaux, bêtes des bois, bêtes des tables, une métamorphose ignoble, vous n'ayez révélé, ravalé la majesté de mes traits. Ben, je veux être débonnaire et me rappeler seulement que vous avez grandi entre mes bras. J'accepte à votre requête, mais arrangez-vous pour qu'elle ne se renouvelle pas. D'autre part, en revanche, si se montre là-bas quelques minois hors de ligne, souvenez-vous que vous me devez une compensation. » Il dit et ordonne à Mercure de convoquer à l'instant tout le conseil des dieux sous peine pour chaque immortel absent d'une amende de 10 000 écus. Grâce à la menace, on fut exact à la céleste conférence. Alors le grand Jupiter, assis sur un trône élevé, adresse ce discours à l'assemblée. Dieu conscrit du rôle des muses, vous savez que c'est moi-même qui ai fait l'éducation de ce jouvenceau. Or, j'ai décidé de mettre un train aux emportements de sa jeunesse ardente. Il n'a que trop fait parler de lui pour des adultères et des désordres de tout genre. Je veux ôter à cette fougue tout prétexte et la contenir par les chaînes de l'hymen. Il a fait choix d'une jeune fille et lui a ravi sa fleur. Elle est sa possession, qu'il la garde. Heureux dans ses embrassements, qu'il en jouisse à toujours. Se tournant alors du côté de Vénus, « Vous, ma fille, dit-il, ne vous affligez pas, ne craignez pour votre rang ni pour votre maison l'injure d'une mésalliance. Il s'agit de nœuds assortis, légitimes, et contractés selon les formes du droit. » L'apothéose de Psyché et le mariage. Il ordonne aussitôt à Mercure d'enlever Psyché et de l'introduire devant les dieux. Jupiter présente à la jeune fille une coupe d'ambroisie. « Prends, Psyché, lui dit-il, et sois immortel. Cupidon et toi, qu'un nœud indestructible vous unisse à jamais. » Soudain se déploie le splendide appareil des noces. Sur le lit d'honneur, on voyait l'époux tenant dans ses bras sa Psyché, et dans la même attitude, Jupiter avec sa Junon. Venaient ensuite tous les dieux, chacun selon son rang. Le nectar circule, c'est le vin des immortels. Jupiter a son jeune berger pour échanson. Bacchus verse rasade au reste de l'assemblée. Vulcain s'était chargé de la cuisine. Les heures semaient partout les fleurs et les roses. Les grâces répandaient les parfums. Les muses faisaient entendre leur voix mélodieuse. Apollon chanta en s'accompagnant de la lyre, et les jolis pieds de Vénus dessinèrent un pas gracieux en se réglant sur ses accords divins. Elle-même avait ainsi complété son orchestre. Les muses chantaient en chœur, un satyre jouait de la flûte, un faune du chalumeau. Et c'est ainsi que Psyché fut unie à Cupidon dans les formes. Une fille naquit de leurs amours, on l'appelle la volupté. Fin du conte d'amour et de Psyché.